France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Des oiseaux? Non. Ou alors oui, de gigantesques oiseaux de ferraille. Une forêt? Oui. Mais pas de sapins ou de bouleaux ou de hêtres ou de chênes. Non, une forêt de grues. Les grues. La grue, l'engin qui parvient à être esthétique et à susciter des émotions. Et puis les marchandises, parfois exquises, des épices par exemple, parfois horribles, des peaux de vache, des farines de poisson. Qui dit grue dit grutier, chantier, en ville, sur les ports et manœuvre. Les grues, on les admire du sol, mais que voient les grutiers, eux, tout en haut? Le jour par exemple, mais encore mieux, la nuit. Et puis parle-t-on de la solitude du grutier? Le grutier dit « on ne peut pas tenir de conversation tout seul, mais on peut crier des invectives ». Quelle impression vit-on en s'élevant dans les airs? Des grutiers répondent, des danseurs aussi. Au cinéma, la grue, c'est important, ne serait-ce que pour filmer les chorégraphies. Cette envie de quitter le sol. Nuit magnétique, rendez-vous sous la grue, par Catherine Soulard, réalisation Hélène Pommier, première diffusion sur France Culture le 3 juillet 1991.
Nuit magnétique, bonsoir. Une canne à pêche, une tige, un crochet, une tension, le concept de la grue est élémentaire. Une architecture métallique l'habille. Et voilà, le voyage commence. Rendez-vous sous la grue, Catherine Soulard, Hélène Pommier. Les mots d'abord. Crinoline, fût, mât, mâture, auban, leste, élingue, flèche, contre-flèche. S'agit-il d'un navire? Non. Peut-être alors d'un phare? Oui, c'est cela. Enfin, presque. Puisque les grues sont les complices et les amis des phares. Entre centre et absence, écrit Henri Michaud. Les grues, me disais-je rêveur, les grues qui se réjouissent de voir au loin les phares. Phares urbains plantés là, entre ciel et terre, dynamisant l'espace, le verticalisant entre substance et atmosphère, entre rêve et vertige. Un essor, un envol, flèche tendue vers le ciel, vers la mer, vers ailleurs. Il m'arrivait de voler en frémissant comme une flèche à travers des extases ivres de soleil, ainsi par les Zarathoustra. André Landormy, secrétaire général du syndicat du personnel du port autonome du Havre de 1969, à 1987, poète malgré lui.
Bah, vous savez, la poésie, effectivement, pour y penser, encore faut-il l'avoir dans l'esprit, et effectivement, il faut avoir le temps d'y penser. Et aujourd'hui, les temps que nous vivons ne conduit pas à faire de la poésie, mais plutôt à faire du rendement. Hein. On peut être un temps soit peu poète, mais ce n'est pas sur les lieux de travail qu'on vous demande de l'être, parce que bah, l'attention de toutes les minutes, de tout ce qu'on fait, des cadences, et on ne vous permet pas de penser à autre chose que ce que vous faites. Quand il arrive votre regard puisse se détourner de l'objet, je dirais, bon, c'est vrai que vous pouvez laisser courir votre esprit, parce que, bon, il y a la mer, il y a le ciel, il y a le bateau, le navire, qui a toujours été évocateur d'aventures, de terres lointaines et de pays qu'on connaîtra peut-être pas forcément, malgré qu'on connaisse les destinations ou les provenances, mais bon, qui pour vous peut vous laisser philosopher ou être un temps soit peu poète, mais ces instants sont très éphémères. Hein. Bien sûr, vous savez, c'est un métier que... Bon, qui requiert des aptitudes physiques, de réflexes, bon, qui ne demandent pas d'être forcément intellectuels. C'est pas ce qu'on demande aux gens. Et justement, dans la mesure où on leur demande pas d'avoir des connaissances techniques et culturelles énormes, ils arrivent à s'exprimer au travers d'un engin. C'est un peu à l'image du routier que, bon, qu'on a dépeint comme ayant plus de muscles que de cerveau. C'est pas, bon, à mon avis, c'est caricatural. Mais le type qui vous descend d'un portique, alors qu'on l'observe, ou d'une grue conséquente, bah, c'est un peu comme s'il descendait de son 38 tonnes qui brille de tous ses feux. C'est quelqu'un. À cette époque, chacun d'entre nous était titulaire de son propre engin, ce qui fait que l'entretien courant, autant que l'entretien journalier, était assuré par la seule et même personne, qui était par ailleurs tenue responsable de sa propreté, de son état mécanique, ce qui fait que il se sentait propriétaire de l'engin. Donc, touche pas. Si un jour il n'était pas là et que l'engin tournait, s'il y avait une déprédation commise, je peux vous dire que ça se passait pas en douceur. Hein. Là, les invectives, il avait lieu en tête à tête et entre quatre yeux. Bon, ce qui fait que, avec un peu de nostalgie, bah, on a vu ces engins se dépersonnaliser au fil des années. On était attaché, comme le chien à sa niche sans doute, mais attaché à notre engin. Bon, moi c'était la 365, appelée communément 65 si vous voulez, bon, parce que sur le quai, on savait qui elle était, et chacun d'entre nous avait la sienne et son numéro. Je peux vous dire que dans certaines grues, le plancher était ciré. L'indicateur de flèche était comme celui que je viens de vous faire voir à Stiqué, mais le mien ne l'était pas, hein, j'étais trop cochon pour. Mais il y a des gars qui amenaient du brasseau de chez lui et à Stiqué, comme le mécanicien, sa locomotive, les grues étaient pareilles. Je ne l'ai pas vu ferrailler, j'aurais certainement eu, non pas forcément la larme à l'œil, mais pour autant un peu d'amertume. Mais je peux vous dire avec la certitude qu'on ne m'avait pas prévenu qu'elle l'était. Mais quand je l'ai su, j'ai gueulé copieusement. Hein. Cette foule bigarrée qui peuplait nos quais est disparue. Pour faire les mêmes tonnages, vous aviez, en mémoire si vous voulez, on faisait des bateaux à l'époque, le maximum était de 10 000 tonnes. On faisait ça jour et nuit pendant les 6 jours de la semaine, à 5 ou 6 équipes simultanées bien sûr, pour arriver à faire les 10 000 tonnes en question. Aujourd'hui, les 10 000 tonnes, si c'est dans du charbon, elles sont faites en 2 heures. Non, j'exagère, mais elles sont faites en quelques heures. Et les navires étant de plus en plus gros, avec des équipages moindres, donc la fréquentation des quais, comme, ne serait-ce que par la population navigante, est disparue. Mais quand il y avait population navigante, il y avait aussi famille des navigants, il y avait aussi les passagers. Le transport de passagers au long cours est disparu, ce qui fait que nos quais sont devenus déserts. Tous ces gens posaient des questions, allaient, venaient, ça criait, ça se hélait de droite et de gauche. Il y avait une vie. Alors, on était au-dessus de tout ça. Alors, vous étiez l'objet de regard, forcément. C'était l'époque où, on peut dire vraiment, quand même, que le transit et le transport du passager étaient un peu l'apanage des gens qui étaient de classe sociale, en général, assez élevée. Par voie de conséquence, si ils avaient des bagages, ils avaient aussi des véhicules à l'image de leurs bagages et des moyens qui étaient les leurs. Donc on transitait des voitures qui coûtaient pour nous des centaines de millions, qui n'avions pas les moyens d'acheter une de chaux au moment. J'ai pas besoin de vous dire que quand ces voitures étaient dans les airs, ils étaient l'objet de regard, et par voie de conséquence, celui qui les manutentionnait. Nous n'étions pas forcément les aristocrates de la profession. D'ailleurs, ça aurait été assez mal vu que de se considérer comme tel. Il fallait, pour que la bonne harmonie puisse exister, être partie intégrante de l'équipe de manutention, ce qu'on appelle, en d'autres termes, une bordée. Bon, il y avait des hommes à bord, des hommes à terre, et un homme dans l'engin de levage, mais s'il était suffisamment adroit et intelligent, il s'intégrait à l'équipe. Bon, il faut dire que le métier de manutentionnaire était un métier excessivement pénible, où il fallait faire travailler et ses bras, mais aussi sa tête, pour éviter la pénibilité. Il fallait donc que le conducteur de l'engin, le grutier, d'abord s'intègre dans l'équipe, mais essaye de diminuer la pénibilité des gens avec lesquels il travaillait. Alors, on manutentionnait bien des marchandises qui aujourd'hui ne se font plus manuellement ou qui ne se font plus du tout. Par exemple, des cacahuètes, des palmiers, des noix de para, bon, toutes des marchandises qui sont disparues, mais qui rentraient dans la composition de produits oléagineux et de savonnerie. Vous aviez des noirs de fumée qui rentraient dans la composition du pneumatique et du caoutchouc. Du caoutchouc pur, alors en balles. Alors, fallait voir ce genre de manutention, parce que les balles étaient talquées avant d'être qui faisait représenter environ des cubes de 50 sur 50, talquées pour qu'elles ne se solidifient pas en mer. Bon, le transport était long. Les durées de transit de transport faisaient que la marchandise chauffant, enfin, ou tout au moins passait sous certaines latitudes. Le caoutchouc ne se mettait pas en fusion, mais ça mal jamais. On n'arrivait pas à le sortir, donc des travaux difficiles. Il y avait également tous les produits, les produits qui là faisaient peut-être un peu rêver. Tout le poivre, les épices, ça vous amenait des parfums, des bouquets. On ne sent plus aujourd'hui, mais vous aviez d'autres marchandises odorantes et malodorantes. Vous aviez la farine de poisson, donc, qui rentrait dans la nourriture du bétail. Vous aviez aussi autres marchandises, c'était horrible, des peaux de vache fraîches, qui venaient des États-Unis pour être traitées chez nous en tannerie et qui macéraient plus ou moins dans le sel. Il fallait travailler dans des conditions pareilles. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que le conducteur d'engin était obligé d'apporter un soulagement, je dirais, aux gens qui travaillaient dans de pareilles conditions. Bon, la vie d'un port est un peu à l'image, comment dirais-je, moi, de la gouaille qu'on retrouve chez le Titi parisien, si vous voulez. Cette envie de se faire entendre d'abord, d'être un peu charrieur sur les bords, d'aller au-devant parce qu'on suscite. Le temps passe plus vite dans la mesure où, alors, il suscite, il chatouille l'autre en face, répond pas forcément à son geste, parce que d'abord, quand ça ne court pas de risque, ne serait-ce que pour l'inciter. Alors on commence comme ça, et après c'est l'invective. Mais ça trompe personne. En fait, on s'engueule pour rire, quoi. Dans certains cas, c'est motivé. Bon, alors là, mais les termes sont différents. Alors, on fait monter un peu la vapeur comme ça, puis quand on descend, bon, bah, tout le monde se serre la main. Bah, à moins que, de temps en temps, et ça arrive, c'est du vrai. Mais on a du mal à cacher nos sentiments, et on les exprime d'une façon verbale, quelquefois même un peu verte. Bon, mais c'est un peu une façon de tromper la solitude, si vous voulez. On peut pas tenir conversation alors qu'on peut hurler des invectives. Ça commence par geste, et puis après on se met au carreau.
Patrick Huon, secrétaire général du syndicat depuis 1988.
Pour être conducteur d'engin, on ne demande pas de qualification précise au départ. Ce qu'on demande à un conducteur, et il y a des tests qui sont là pour essayer de révéler des qualités naturelles des réflexes, une capacité de coordination de mouvement ou les quatre membres doivent pouvoir être capables de faire des choses simultanément ou des choses différentes. On demande une colonne vertébrale en parfait état à cause donc du risque de dégradation prématurée qu'on constate au fil des ans chez les grutiers. Une vue, bien sûr, alors sans lunettes de préférence ou corrigées avec des lunettes de manière à avoir 10 à chaque œil, la hauteur étant un élément qui grandit au fil du temps. Les cabines de grue hier étaient aux environs de entre 10 et 15 mètres de hauteur. Aujourd'hui, les cabines de portique se retrouvent aux environs de 35 mètres. 35 mètres au-dessus du quai, plus 8 mètres de marnage à marée basse. La galoche qui permet de poser le conteneur est couleur rouille, quand le fond du bateau est de couleur rouille et que l'éclairage est un peu déficient, quand vous cumulez donc ces quelques mètres, il est sûr qu'une bonne vue permet de bosser dans de meilleures conditions qu'une vue qui peut aller en se dégradant avec l'âge. Le bois de Campêche, c'est une vieille histoire parce qu'on n'en fait plus. Le bois de Campêche servait à une usine qui s'appelait Wave les Extraits Tinctoriaux et qui, comme son nom l'indique, fabriquait de la teinture à partir d'éléments végétaux, tirés de racines, du bois, de Campêche. Et donc des racines, par essence, c'est dans tous les sens, c'est en berlificoté. Vous aviez donc ces tas de racines dans lesquelles des navires chargés en vrac, les dockers faisaient ce qu'ils pouvaient pour essayer de vous constituer une palanquée à peu près cohérente et correcte. Et il arrivait bien souvent qu'au virage d'une palanquée énorme, d'un tas de fagots énorme, dans laquelle on arrive avec une allumette au-dessus du camion qui était chargé d'évacuer la palanquée, le reste étant tombé et distribué entre la cale, le bord, le bout de quai et l'échafaudage, les palettes qui permettaient d'accéder au camion. C'était une manutention, pour le grutier non, mais pour le docker en bas, excessivement dangereuse. Dangereuse donc à cause de ces chutes de bois qu'il était impossible de prévoir, parce qu'une palanquée qui vous paraissait bien faite en cale pouvait se défaire brutalement en l'air. Dangereuse aussi à cause de la nature des animaux qu'on pouvait trouver dans ces cargaisons, chargées dans des pays chauds, des racines de bois stockées sur les quais. On y trouvait fréquemment des araignées, des serpents, toute une faune qui, quoique endormie un petit peu par notre climat, quand même nettement moins chaud que le pays d'origine de ces bois, ces bestiaux pouvaient rester relativement dangereux si on les attrapait par inadvertance avec la main, qu'on pouvait poser le pied dessus. Et il était fréquent qu'à fond de cale, une fois que la majeure partie de la cargaison était débarquée, tant bien que mal, on trouve quelques serpents et quelques araignées du type mygale et autres bêtes du même acabit.
Nouvelle génération de grues, les portiques.
On fait une heure. On conduit chacun une heure parce que bon bah. C'est-à-dire que c'est quand même un boulot qui est quand même assez stressant et puis vu la hauteur, on fatigue quand même assez vite quoi. Donc on fait une heure. Moi, si vous voulez, je conduis de 15h à 16h et mon collègue va reprendre la relève de 16h à 17h et moi je vais reprendre de 17 à 18. On fait une heure chacun. C'est-à-dire, bon, les conteneurs, je les prends. C'est les dockers qui me les amènent avec leur vent de carrier, qui me les mettent à terre. Et moi, je les reprends avec le portique et je les positionne à bord, suivant la place qui est désignée par un des dockers. Il me fait signe, il va là. Le B.A.B.A. du travail, c'est d'arriver avec le moins de ballons possible et puis de tomber sur le conteneur du premier coup, quoi. Qu'il n'y ait pas une trop grosse perte de temps. Celle-ci, si vous voulez, me sert pour la montée et pour la descente. Et pour la... Attendez. pour la montée, pour le lait. Là je vais monter, là. Je vais virer mon spreader. Alors, le spreader, c'est ce qui est au bout du... C'est ce qui permet de verrouiller les conteneurs. Je peux aussi, avec cette manette-là, faire de la giration, c'est-à-dire tourner ma cabine. Et avec celle-ci, avant et arrière. Et translation. C'est-à-dire je peux déplacer le portique de droite à gauche sur le quai, quoi.
Prends pas le 40 pieds, là. Tu prends pas, t'en fais un 20 pieds, maintenant.
Alors, vous voyez, le spreader, là, je peux le réduire en... Vous voyez, là, il va passer en 20 pieds, position 20 pieds. Parce que vous avez des conteneurs de 40 pieds, vous avez des conteneurs de 20 pieds. Disons que c'est un petit peu plus du travail de précision, quoi. Donc, ça demande plus d'attention, mais justement, à cause de ça, pour moi, le temps passe plus vite dans un portique que dans une grue. Alors, vous voyez, là, je translate le portique. Je vais sur la droite. Vous voyez, la difficulté, c'est d'arrêter le ballon. Maintenant, il faut tomber pile dans les galoches. Et voilà. Ça doit être la 11. Ah, vous voyez, il y a des longages.
C'est la 11, c'est un
ouais, c'est ça. Ouais, il me fait ça. Bon. C'est pas toujours compréhensible. Qu'est-ce qu'il fait? Il repasse en 40 pieds là ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu repasses en 40 pieds là? Alors, apparemment, il n'est pas décidé à répondre. En plus, c'est un travail où il faut quand même pas mal deviner ce qu'il faut faire, où il faut aller, ou si le conteneur est mal positionné sur ses galoches. Bon, aussitôt, enfin, il jette quand même un coup d'œil, aussitôt vous allez le reprendre. Hein.
Vous n'avez pas le temps de regarder le paysage?
Bah, pas tellement, non. Enfin, vous savez, le paysage, on le connaît. Hein. Ah, la première fois, oui, c'est quand même impressionnant. La première fois qu'on vous laisse aux manettes, quoi, aux commandes, vous êtes pas fiers. Hein. Oh, je sais pas, j'ai bien mis 6 mois avant d'être vraiment à l'aise dans un portique. Hein. Et même, encore maintenant, on se fait quand même des petites frayeurs de temps en temps. Hein.
Oscillation, appréhension, vibration, frisson. Il n'est de véritable jouissance, écrit Goethe, qu'au point où commence le vertige.
Où les hommes gravissent des échelons, où montent à une certaine altitude, il y a toujours des risques, y compris des risques purement professionnels, d'erreurs de manœuvre, d'erreurs de conduite, d'erreurs de navigation, d'éléments. Mais en vérité, les risques les plus grands sont notamment ceux qui peuvent intervenir, non pas en cours de manutention, enfin pour le conducteur d'engin, enfin ou grottier que nous étions, où nous sommes, mais plutôt dans les travaux d'entretien. Parce que un rail s'est affaissé, parce que un câble a sauté, et c'est en cours de manutention, il faut faire un peu l'équilibriste, ce qui fait que ça pardonne pas à des hauteurs comme celle-là. C'est jamais un petit accident. S'il y a chute, elle est mortelle. La trop grande habitude, on travaille souvent, trop souvent, je dirais, c'est bien et c'est mal, avec les mêmes gens. On se connaît bien. Dans la mesure où on sait que c'est un tel ou un tel qui est dedans, bon, on connaît sa dextérité, on fait moins attention, parce que sous pâté, mais l'homme, il est stylé, la machine est aussi capricieuse, sinon plus. Ce qui fait qu'il peut et il arrive des incidents justement par la trop grande habitude, par la trop grande confiance à celui qui est à la conduite de l'engin.
Sur des alpages de ferraille, de Gennevilliers à la Défense, les escalades d'un solitaire, Gérard Michel.
J'ai fait de l'alpiniste étant jeune, c'est-à-dire de 8 ans jusqu'à 35 ans. Bon, ce qui m'empêche pas, j'ai pas le vertige, ça ne me dérange pas de monter ni de descendre dans une grue à tour. J'ai pratiqué la grue pendant 20 ans.
Est-ce que monter à la grue, ça vous rappelait des sensations d'alpinisme ?
Beaucoup, parce que j'ai eu l'occasion de descendre une personne qui était montée d'ailleurs là-haut et qui s'était blessée, et que je l'ai descendue en rappel, quoi. Je suis un peu casse-cou, mais là, il n'y a pas de problème, il y a des sécurités tous les 6 mètres. Hein, vous avez l'échelle, sécurité derrière, et tous les 6 mètres, il y a un palier dans lequel vous pouvez vous reposer, vous respirer un peu, et pour pouvoir continuer à monter après. Puis bon, j'aime bien aussi la solitude. J'aime bien travailler seul, déjà, une. Toujours aimé travailler seul, donc ça ne me dérange pas du tout.
Baraques, bennes, barrières et bulldozers sont en bas. Défense d'entrée, chantier interdit au public, port du casque obligatoire. Mais là-haut, où est-on ? A-t-on quitté la terre ? Est-on loin ? Est-on proche ? Étiré en tous sens, écartelé entre hauteur et profondeur, d'un côté et de l'autre, sur une croix de poutrelles métalliques. La grue est entre deux, à la fois rupture et lien. Elle est un outil du voyage. D'abord, il faut partir, exploiter ses jambes, ses bras, sa force musculaire, poser ses pieds, ses mains, justement. Le corps attaque le flanc de la géante. Prendre pied, souffler, s'arrêter au palier, s'appuyer, s'alléger, jouer avec son poids et lentement se transformer en se soulevant. Au-dessous, c'est le vide. Monter encore. Les bruits s'éloignent. Le chaos, l'agitation aussi. Le silence appartient aux hauteurs. Attention, l'artiste est en l'air, l'équilibriste sur la flèche.
L'air libre sans être commandé là-haut. Je sais pas.
Un petit peu le risque aussi. Bon, ça change, quoi. Avant, j'étais grutier, bon, prenais un peu des kilos, alors maintenant, il faut changer. Maigrir un peu. Non, mais, je sais pas, un petit peu le risque. La ceinture, le casque, les chaussures, bon, en principe, on craint rien, quoi, là-haut. Un peu de sensation, bon. C'est moins dangereux, quand même, de monter, parce que la flèche, quand on monte la flèche entière par terre, on peut, pour les lingages, tout ça... Ouais, tandis que si c'est là-haut, faut pas se planter, quoi. Pour les lingages.
Quelles sont les réactions de vos parents, de vos amis, de vos femmes?
Faut pas rentrer le soir tard. Voilà. Parce qu'ils s'inquiètent.
Voilà. Pour moi, elle dit que je suis fou, mais bon, faut la laisser parler, quoi. Faut faire un boulot, faire un boulot qui plaise.
Et les réactions des gens dans la rue, vous en avez? Des badauds?
Ils aiment ça, ils regardent. Ah oui, parce qu'ils voient des singes là-haut, alors.
Étonné de voir des gens comme ça grimper aussi agilement, c'est assez spectaculaire. Donc ouais, il les regarde un peu comme comme au cirque, aussi un peu peut-être comme des alpinistes encordés. Donc on a déjà commencé par empiler un certain nombre d'éléments. Les prochains semis vont arriver dans les minutes qui viennent. Et les monteurs vont continuer à donc empiler encore trois éléments. Ensuite, on mettra en place, à l'aide de l'engin de levage que vous voyez là, qui est une 130 tonnes, on va mettre en place le mât cabine. Ensuite, on mettra en place la contre-flèche et toute la partie flèche, c'est-à-dire 40 mètres de flèche. Puis on mettra aussi les contrepoids de façon à équilibrer la grue. Et pour, je crois que la journée sera bien entamée. Donc les gens que vous avez rencontrés, nos deux monteurs, donc Douki, qui est un monteur qui a 25 ans de métier, donc qui est depuis très ancien dans le métier, qui connaît toutes les. Donc son coéquipier, qui est un jeune que l'on vient d'embaucher. Qui est là depuis dans l'entreprise depuis 4 mois et qui apprend le métier. Je dirais que leur motivation aujourd'hui pour ces deux personnes, c'est la vie de chantier, c'est un peu la liberté. Il faut aussi avoir un peu évidemment le goût du risque. Mais bon, c'est des gens qui prennent toujours la mesure des risques encourus. Bon, il faut savoir aussi qu'à ce niveau-là, bon, sur les machines, Ils ont la possibilité d'être attachés constamment. Ils ont des passerelles, ils ont donc sur eux, vous avez pu le constater, un harnais de sécurité. Et à partir de là, le risque est vraiment limité.
Sur les murs, sur les bus, des affiches. Un paysage de grues striant un ciel de soleil levant. C'est l'un des trois visuels d'une campagne publicitaire visant à promouvoir une banque française. Dans ses études, Susanna Le Boisselier a recueilli les échos, les images, les émotions que cette forêt de grues fit naître.
Les grues suscitent un imaginaire extrêmement riche et très très impliqué. L'image de la grue fait référence d'emblée à l'enfance, c'est-à-dire qu'on évoque immédiatement les jeux, et notamment les hommes parlent de leur Lego, de leur jeu de grue quand ils étaient petits, et donc c'est une image ancrée très très loin. Ensuite, pour ce qui nous concernait, on était intéressés par l'idée de savoir si ça suscitait des images qui avaient l'air d'être en phase avec une banque évolutive, une banque moderne. On s'est aperçu qu'en effet, la grue était un symbole de progression, qu'elle parlait en fait d'une période qui a à voir avec les pionniers, c'est-à-dire que l'endroit où s'érige une grue est un endroit qu'on défriche dans une ville. Et c'est le premier paysage, en fait, d'une ville ou d'une municipalité, d'une agglomération. C'est donc un point de passage, en fait. Alors, par ailleurs, la grue, dans sa configuration physique, suscite des évocations toujours extrêmement poétiques, contrairement au gratte-ciel, contrairement à d'autres évocations qui ont trait à la ville. C'est-à-dire que les évocations s'organisent autour du thème de l'oiseau de fer, de quelque chose d'extrêmement fort et gracile à la fois, quelque chose qui s'élance vers le ciel et qui, en même temps, est très ancré dans la profondeur, basiquement sur le sol, mais qui va très haut et qui va quasiment, j'ai envie de dire, tutoyer les nuages, mais quelque chose de ce genre-là. Et en ce sens, ça paraît une construction, et on revient à ces fameux jeux d'enfants des hommes, à une construction dont on ne comprend pas comment ça tient. C'est sûr qu'il n'y a aucune réalité, aucune connaissance réelle de la façon dont ça se construit et dans la façon dont, érigé aussi haut, ça puisse en effet tenir. Alors, je parlais d'un côté poétique. C'est vrai que dans le vocabulaire populaire, dès qu'on parle de grue, bon, il y a les connotations qui ont trait à une grue, une poule, etc., bon, mais qui n'apparaissent pas trop quand on regarde un visuel de ce type. Ce qui apparaît, c'est réellement l'aspect poétique et toutes les références de ciel tourmenté, d'ambiance cinématographique un peu nostalgique. Le ciel n'est jamais bleu, toujours tourmenté, lever de soleil ou coucher de soleil. Donc toujours quelque chose qui se construit, une journée qui commence, une journée qui finit, des états d'âme en fait. Personne ne parle de grue sans émotion. On a le sentiment que c'est comme une sculpture, en fait, et c'est pas loin des sculptures de Giacometti ou quelque chose de cet ordre-là, en allant plus loin vers la Tour Eiffel, des choses qui sont faites en acier, en fer, qui ne devraient pas être belles et qui, en définitive, arrivent à être esthétiques et à susciter des émotions. Le défi à la pesanteur aussi, tout à fait porteur d'idées d'efficacité fine et moderne. C'est-à-dire que la grue est l'instrument de la modernité, de la construction de la modernité, tout en étant faite de façon assez traditionnelle, puisque les grues existent depuis longtemps, et dans des matériaux qui n'ont rien de révolutionnaire. Et la grue est souvent perçue comme un arbre, quasiment un arbre de la ville, en fait. Quand pousse une grue, c'est qu'il va se passer quelque chose dans la ville. On ne pense jamais au moment où elle est démontée, mais elle est toujours le signe que quelque chose va se passer. Et en ce sens, elle est aussi très, très poétique en tant qu'arbre. En aucun cas, on n'a parlé ni de chute du grutier, qu'on imagine d'ailleurs à peine. Je veux dire qu'une grue, on sait qu'elle est habitée, on sait qu'il y a un humain, ça n'est pas un robot, c'est évident. Mais on a le sentiment que le grutier est quelqu'un d'un peu mythique et on n'en parle pas comme d'un métier, en tous les cas. On ne pense pas qu'il va tomber ou qu'il y ait des risques et on ne pense pas non plus que la grue puisse se casser ou tomber, en fait. Il y a une idée de sécurité extrêmement forte et qui a à voir avec les racines. Même si elle est extrêmement élancée, je parlais du mot gracile, parce que c'est un peu comme ça qu'on l'a décrit, on sent des racines au sol.
Les racines de la grue et les racines du mot, où sont-elles ? Le nom grue, comme beaucoup de mots français, hein, vient du latin tout simplement, où il signifiait, grua en latin populaire signifiait l'oiseau, hein, tout simplement. Donc dès le XIIe siècle, en français, on retrouve cet oiseau, cette grue. C'est un peu plus tard, quelques siècles plus tard, qu'on repère la grue en tant que machine à soulever des fardeaux vers 1467, enfin exactement en 1467. Mais ce n'est pas le deuxième sens au mot qui apparaît. Un peu avant, on a un demi-siècle auparavant, en 1415 exactement, on repère le mot grue au sens de fille publique.
Bonjour Agnès. Oh, vous avez de bien belles perles aux oreilles. Je les reconnais, je suis passée chez mon bijoutier, les perles étaient vendues. J'étais sûre de les retrouver sur vous.
Vous vous trompez, Hélène.
Est-ce de votre âge de porter des bijoux de cette valeur? Enlevez ça tout de suite. Vous êtes incorrigible. Comment agissez-vous, je vous le demande.
Vous vous trompez.
Vous agissez comme une grue. Une horrible petite grue. Vous allez renvoyer ces perles d'où elles viennent avec un mot de refus très sec. Comment Agnès peut-elle faire des choses aussi maladroites? Faut que j'y sorte.
Ma pauvre amie, surveillez-la. Empêchez-la. Ne me démolissez pas mes échafaudages. Ne me détruisez pas ce que je me donne tant de peine à mettre debout. Et comment pouvez-vous supporter qu'on traite votre fille de rue? Et c'est ce que vous faites en admettant des cadeaux.
Faire le pied de grue. On sait ce que ça veut dire, attendre debout, sans bouger. Comme une grue, une patte repliée sous l'aile. On trouve déjà l'expression chez Racine, dans les plaideurs. Mais on n'a pas toujours dit faire le pied de grue. Au XVIIe siècle, on disait faire la jambe de grue. On a dit aussi, ça c'est plus étonnant, on n'en comprend pas bien le sens, faire de la grue. Et sans doute qu'il faut y voir un jeu de mots qui n'a plus de sens aujourd'hui. Un jeu de mots avec le verbe « gruer » qui voulait dire « attendre ».
Jouons donc avec les mots grue, érection, dentelle.
Cette grue est en effet un objet en érection, mais les images qui viennent à ce sujet s'articulent autour de la dentelle ou de la finesse et d'un côté extrêmement pas raffiné mais gracile, fin et jamais une idée de force. C'est plutôt une idée de ruse, de force fine et jamais de lourdeur ou de puissance brute en fait. Donc les évocations sexuelles n'apparaissent pas spontanément par rapport à ça. Plus que d'une dévocation sexuelle, il s'agit plutôt, à mon avis, d'aspiration plutôt du type sur moi ou de choses beaucoup plus, qui ont à voir avec la création, avec l'art, avec un côté beaucoup plus surmoïque que des pulsions aussi brutes.
Au sommet, dans sa cabine, le grutier est à nouveau l'enfant roi dans la cabane de jadis, à l'écart, surplombant le monde étalé sous lui, soumis, seul maître à bord, le regard monarchique. En bas, c'est si petit, sa grouille est regardant l'air vers lui. Il manœuvre des tentacules. Le gréement d'acier lui obéit. Transmission, démultiplication, son geste est une jouissance. Une saute de vent, un tremblement, une courte dérive, et c'est la catastrophe. Il est las de la grue. Sa main se prolonge loin là-bas. Avec une précision diabolique, il soulève des tonnes. Il attrape l'aile d'un papillon entre ses mâchoires. Implacable, il conduit la grue, le chantier, les hommes. Jean-Pierre Cazeneuve, ingénieur conseil à la Caisse nationale d'assurance maladie, au département accidents du travail, est chargé notamment des problèmes du bâtiment et des travaux publics.
On peut dire que le grutier, c'est l'homme clé du chantier. C'est lui qui dispose de l'appareil qui va permettre de manipuler l'ensemble des charges qui sont sur le chantier. Qu'il s'agisse de la benne à béton qui transporte le béton, qu'il s'agisse des outils de coffrage du type banche ou table. Si le grutier fait des déplacements à l'inverse de ce qu'ils doivent être faits, on peut dire que le chantier va prendre énormément de retard, voire mal fonctionner. Et donc le grutier est sans doute une pièce maîtresse du chantier. Il n'est pas évident que les grutiers soient conscients de ce rôle très important qu'ils ont à jouer sur les chantiers. Sur un chantier, il est de tradition que la plus haute grue soit en principe confiée au meilleur grutier. Les entreprises qualifient leurs grutiers en fonction des machines. Plus la grue est puissante, plus les capacités de la machine seront importantes, plus le chantier sera conditionné par le rendement de cette grue, et l'on conçoit que les grutiers qui ont à manipuler les grues les plus puissantes soient les grutiers les plus qualifiés de l'entreprise. Donc en règle générale, la grue la plus haute est confiée au meilleur grutier, mais comme toute règle, elle donne lieu à des exceptions.
Monsieur Fernandez, lui, est grutier depuis 20 ans. Depuis 20 ans, deux fois par jour, il monte à sa grue et en descend.
Il faut prendre au moins s'arrêter pendant trois fois pour arrêter calmement quand on arrive là-haut, tout à fait de la cabine. Et on s'arrête trois fois, c'est bon.
Quelle hauteur ?
50 mètres. Il y a un, deux, et puis même le troisième. Mais normalement, le troisième, on ne s'arrête jamais, pour mon âge. C'est une personne qui n'est pas habituée, bien sûr, il s'arrête même 5 fois ou plus que ça.
Vous avez quel âge ?
56. J'arrive en haut, il y a deux girouettes à desserrer de moteur de rotation, et je m'installe dans la cabine, j'avance ma courant, et je m'installe comme il faut, et je note le carreau s'il n'est pas tout à fait bien propre, mais normalement les cabines sont propres, pas nous prendre le grutier qui sera moi, l'autre, la cabine sont bien, et puis là on se met en rotation de travail, comme il faut. Je garde entre les jambes, il y a un carreau en dessous entre les jambes, et on garde de côté de gauche et de droite et en face. C'est des cabines, maintenant c'est bien comme ça, mais il y a quelques années en arrière, c'était pas comme ça. C'était plus difficile, et maintenant c'est plus simple. Enfin, c'est bien pour nous et pour la sécurité du chantier, des ouvriers, notre combat. On est bien, ils se tournent, c'est presque comme, je veux dire, dans un bureau. J'ai le chauffage pour l'hiver et la ventilation pour l'été. S'il y a de chaleur quand même quand on est assis, que le soleil tape trop fort, ça fait quand même un peu chaud, de gauche ou de droite. Bon, ben, nous on a toujours un moyen d'avoir un petit chiffon qu'on met au côté. Vous savez que moi je pèse pour nous tourner le soleil comme un parasol dans la plage. C'est nous-mêmes le grutier, quand je nous tourne la flèche, si on voit que les gens ne sont pas attention avec nous ou ce qu'on vient, nous sommes même obligés de nous arrêter pendant que le gars qui est en dessous de nous, qu'on voit, où il va le crochet, où il va la flèche aussi. Si le gars, que nous, de là-haut, on voit que le gars, il n'est pas attention, il faut s'arrêter. Nous, au moment de là-haut, on ne se communique par rien. On attend le signe du chef, aux deux ouvriers qui nous demandent aussi que nous on va, parce que vous voyez, il y a pas mal d'endroits à tourner. Quand c'est une grue qui a plus de 50 mètres, c'est pas le cas de celui-là qui a 50 mètres, comme on est de grue qui a 110 mètres ou plus de 60 mètres, là nous sommes communiqués par la espèce de caillou qui est de la radio. Alors là, il y a un chef qui est en bas, qui nous oriente à gauche, à droite, tu vas par ici, tu vas par là. Quand il bouge en même temps, nous, chacun, on est dans sa grue, et nous avons un secteur de sécurité. Si nous, on s'approche, qui sera au moins de 50 mètres pour le 30 mètres, et qui sera l'autre, il s'arrête. Il y a un truc, un système de sécurité qu'ils nous ont mis pour éviter des accidents.
Il n'y a jamais eu de problème ?
Jamais. Moi, j'ai 56 ans, comme je vous ai dit. Enfin, des fois, on peut peut-être dire les cons. Bon, vous savez, c'est entre nous, les ouvriers de chantier. Mais non. Moi, j'ai jamais de problème. Pour dire la vérité, jamais de problème avec personne. Si on va vite, le chantier va vite. Le chef, il sera content. Tout d'abord, déjà, le chef de chantier sera content. Ensuite, le chef d'équipe. Bon, ben, s'il y a des empêchements, comme celui-ci a eu le cas, parce qu'il y a trop de monde, il y a pas mal de chefs. Ben, il y a un chef qui nous appelle à gauche, il y a un chef qui nous appelle à droite. Comme il y a plusieurs chefs, je suis obligé d'être droite avec tout le monde. Ben, j'ai fait un signe à un chef à gauche, à droite. J'ai dit, ben, je vais par ici, à droite. Puis je viens vers la gauche. Bon, lui, en ce moment-là, il me suit, il veut aussi que je tourne ma flèche. Il dit, bon, ben, s'il va par là, c'est qu'il y a un chef par là. Parce que quand il y a plusieurs qu'un chef, ils savent bien que... Il faut obéir à tout le monde, il faut être disponible avec tout le monde. Bien sûr, je ne peux pas couper ma flèche. Donner un morceau de flèche pour le chef de droite et un morceau de flèche pour la gauche. Ben, on se comprend bien, vous voyez, comme ça. Effectivement, dans le travail, c'est comme ça. Il faut être le maître. Il faut être le maître, il faut suivre le chef, bien sûr. Mais nous, si on fait notre travail, notre loi comme on doit, comme nous avons les consignes dans la cabine, nous avons quand même des consignes à respecter, je suis maître du travail. Il n'y a pas de problème. Il me fait un geste avec son bras, au bout de son doigt, de main droite ou de main gauche, ça dépend de comment il veut le faire. Et il me fait c'est vers haut, vers en bas, vers la gauche, vers la droite. Et bon, bah, si en mettant on est rechaussé, il me fait signe que c'est pour monter là-haut au deuxième étage, comme c'est le cas en ce moment. Et si on est haut, qu'il faut tourner la flèche pour venir chercher quelque chose en bas, il me fait signe tu tournes à gauche, tu tournes à droite, il me fait signe derrière. Je sais bien que c'est tourner la flèche à gauche ou à droite et que je viens en bas. Alors quand j'arrive de l'autre côté, je vois qu'il y a des gars qui m'attendent pour aller chercher le matériel, n'importe qui ce soit, la ferraille, le béton, le bois, le prédal, un camion, de chercher un camion. Grâce à Dieu, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas tombé en panne encore. Mais si encore on tombe en panne, bon, on fait signe là-haut avec le dos en ce moment-là, bois droit et bois gauche, et on dit ça y est, rien qui marche plus. Bon, les gens qui sont en bas, ils comprennent qu'il n'y a rien qui marche, ils vont chercher le chef mécano. Et le chef mécano, à ce moment-là, il prend son appareil, il monte, ou il commence à contacter en bas dans la carmille. Enfin, il y a une armoire en bas électrique. Il dit, bon, il n'y a plus de courant, s'il y a de courant en bas, il est obligé de monter là-haut pour voir. Parce que nous sommes de courtiers, mais nous ne sommes pas techniciens pour voir toutes les pannes. Tout le chantier s'est affoulé et tout le monde y garde là-haut. Ils disent, qu'est-ce qui se passe là-haut? Le type, il s'endort, il ne veut rien faire, ou il est fâché. Ça dépend du type aussi. On pense beaucoup de choses des fois à la fois.
Vous avez le temps d'avoir peur de temps en temps, d'avoir des frayeurs, justement en cas de panne par exemple?
Jusqu'à ce jour, jamais. On peut avoir peur, quand c'est une tempête, un orage, pour dire franchement là ça fait un peu de respect quand on est là-haut, principalement avec les orages c'est un peu dangereux. Nous savons qu'il y a un rafale de vent qui nous arrive, alors c'est dangereux. Nous avons la consigne dans la grue, nous sommes obligés de nous arrêter. Il y a un vanomètre du vent. Il y a un sonnerie d'arrêt de la cabine. C'est une petite manivelle qui est au-dessus de la flèche, il tourne trop vite, 70 le vent à l'heure. Quand nous avons atteint ce sonnerie, nous sommes obligés de nous arrêter. Même si le chef il nous appelle, et nous on attend ce sonnerie, par la loi, on est obligé de s'arrêter. Si on essaie de reprendre le boulot, nous risquons de faire un accident, Et en ce moment-là, c'est sur le dos du grutier. Il a forcé de travailler, il a fait un accident, c'est nous qu'on a dans le dos. Jusqu'à ces jours, cette année, on n'a pas encore des orages, mais quand on a, comme on était à la Défense, c'est une grue qui avait 110 mètres d'hauteur. J'étais dans la cabine des fois, avec la tempête qu'on a eu plusieurs fois, ou par les orages dans l'été, bon, on s'arrête. On s'arrête et le chef ne dit rien du tout. Le soir, on s'arrête, bon, on a monté notre crochet, on a recollé le crochet le maximum jusqu'à la cabine, on a monté le chariot tout à fait haut. Et ensuite, nous sommes obligés, il y a deux moteurs de rotation de côté, serrer le girouette pour que le vent il tourne la flèche de vent en rotation. Bon, peut-être des fois, il y a des gens qui sont à côté de chandier qui disent il y a la flèche de l'aiguille qui nous coupe la télévision. Je sais bien parce que ici on n'a eu jamais, mais j'ai eu quelques chantiers de problèmes comme ça. Mais nous, on n'est pour rien. Ni moi, le grutier, ni chef de chantier, ni directeur, ni conducteur, ni personne. Nous sommes obligés de mettre la grue en girouette. Si on ne mettrait pas en girouette, qu'il y ait un cas, il y a une tempête dans la nuit, et que la grue se casse la gueule, il y a une enquête. Et cette enquête, il va voir que le grutier n'a pas mis le moteur en girouette. Et ensuite, là, c'est le grutier qui est dans le dos. Bon, le patron, il faut te dire, c'est normal, parce qu'il n'a pas fait sa loi, il n'a pas fait son boulot comme il voulait le faire. Et voilà, ben, on serre le moteur et le vent, comme il y a en ce moment, un petit courant de l'air, c'est presque rien, mais le vent, il l'a fait tourner, de vos sens. Si vous regardez ces grues-là, je sais pas moi, vers 19h30 à 20h, les deux flèches, elles sont presque toujours dans le même sens. On se dit des fois, tiens, je veux savoir si le vent est du nord, c'est du sud. Si vous voyez que, en mettant, comme ici, nous sommes à côté de la maison de la radio, que la queue de la flèche, il est vers la maison de la radio, vous savez que le vent, il est du... Attendez, c'est du nord, c'est de l'est. C'est de l'est. C'est de l'est, voilà. C'est joli, pour vous dire la vérité, c'est joli. Ben, ça fait, enfin, ça fait plaisir pour ceux-là que nous, qu'on a vu, étaient là-haut. Mais c'est plus joli encore la nuit, quand on voit la lumière allumée. C'est pas encore ce moment, parce qu'on finit de bonne heure. Mais dans l'hiver, quand on est là-haut, quand on voit tout illuminé, c'est joli quand même.
Quand vous parlez de votre métier, ou quand on vous demande ce que vous faites comme métier, quelle est la réaction des gens, ou de votre femme, par exemple?
Ma femme, elle me dit, c'est un boulot que je ne veux pas. Elle s'inquiète que je suis en haut. Ben, c'est comme je le dis, ben, écoute, quand on est dans une voiture, c'est un métier dangereux aussi. Hein. Ah ben non, c'est une voiture, on est assis. Je dis, oui, ben, là-haut je suis assis aussi, mais c'est pas pareil, c'est pas le même système. J'ai 4 enfants. Et le plus jeune, il est en France, il dit, papa, moi c'est un métier que je ne veux pas. Comme ils ont venu il n'y a pas longtemps, il dit, papa, moi je ne veux pas là-haut. Non, vous êtes malade, enfin, mais moi je rigole quand ils me disent ça. Ils me disent qu'ils ont peur. Bon, ben, vous savez, hein, quand on n'est pas habitué, on n'est pas habitué.
Paysage avec grue, les cieux sont cisaillés, les horizons traversés, les villes chevauchées par des carcasses élancées et volontaires. La grue stabilise l'espace, l'intégrité d'un ciel où rien ne perce, l'uniformité que rien ne rompt sont une provocation. L'horizontalité attend, un destin vertical. Mais au contraire des clochers, des beffrois, des flèches de cathédrales, la grue est le décor éphémère d'un théâtre industriel qui monte et démonte ses tréteaux au gré de ses besoins. Actives et fécondes, humaine pour les écrivains et les poètes. Louis Broquier, Henri Michaud, Blaise Cendrard, Malcolm Lowry et d'autres. Les grues regardent l'eau, elles se réjouissent, elles travaillent. Les grues treillissées s'inclinent et se saluent. Viens, viens, viens. La grue est avenir des choses, porteuse d'un projet, de la chose à venir. Dans les villes, sur les chantiers, les immeubles se dressent. Sur les quais, dans les ports, des containers sont charriés, des richesses s'exportent. Sur les plateaux de cinéma, dans les studios, naissent des images.
C'est que la danse, c'est l'envie de décoller, de quitter le sol, d'échapper à la pesanteur. Et donc, comment filmer la danse ? Ça, c'est une question que tous les cinéastes qui ont travaillé dans la comédie musicale ont dû se poser. Et évidemment, il faut que la caméra filme les danseurs, les cadres, mais aussi il était tentant d'avoir une caméra qui les accompagne, qui danse aussi à sa manière et qui donne au spectateur le sentiment qu'il n'est pas justement seulement un spectateur assis dans son fauteuil qui contemple des gens qui bougent, mais que lui aussi participe à un ballet. Et c'est là, je crois, que le mouvement de grue au cinéma trouve son accomplissement. Alors, bon, je pense que tout le monde se souvient de cette séquence inoubliable de Chantons sous la pluie, justement la séquence où Gene Kelly chante la fameuse chanson Singing in the Rain. Et si on regarde, si on revoit cette séquence, elle est filmée avec des plans très longs, très fluides, très, très souples, où la caméra n'est pas toujours à hauteur d'homme. Parce que c'est ça, finalement, le désir du spectateur quand il regarde un moment de grande émotion comme celui-là, c'est de quitter le sol, c'est de ne plus se sentir avec des chaussures collées au sol. Alors, il faut se souvenir, dans le Chantons sous la pluie, Gene Kelly vient pour la première fois d'embrasser Debbie Reynolds devant la porte où il l'a reconduite, et il l'a quittée, il est tout seul. C'est ça qui est très beau, c'est le moment de solitude après la première rencontre. Et il se met donc à chanter et à danser seul avec son parapluie qui est d'abord fermé puis qui va s'ouvrir, qui va se déployer. Et que fait la caméra ? Très souvent, elle quitte la hauteur d'homme, la hauteur du personnage, pour être un petit peu plus haute que lui ou un petit peu plus bas. C'est-à-dire qu'elle nous donne le sentiment qu'on n'est pas toujours justement à la hauteur imposée par notre statut d'être humain, une certaine taille. Et à la fin de la séquence, d'ailleurs à plusieurs moments, Gene Kelly s'accroche à des réverbères, grimpe à des réverbères aussi. Il y a quelque chose presque de simiesque, comme un écureuil ou un singe ou un oiseau qui peut se déployer dans la posture verticale, dans la situation verticale. Voilà. Et alors, la fin de la séquence, elle est très remarquable parce que lorsque tout s'apaise, tout se conclut dans le bonheur, il a croisé un flic et le flic l'a pris pour un fou. Mais nous sommes du côté du fou. Et puis d'ailleurs, il ne se passe rien. Le flic le regarde gentiment, le laisse partir. Et là, la caméra cadre l'avenue et le trottoir en perspective. Et la caméra monte légèrement pour accompagner son départ. Alors, vous savez, autrefois, dans les écoles de cinéma, on voulait tout coder, tout signifier. On disait, ah, une caméra qui est au-dessus d'une scène et d'un personnage en plongée. Elle accuse le personnage, elle l'écrase. Et c'est pas du tout ça, c'est exactement le contraire. En s'élevant au-dessus du personnage, la caméra nous donne l'impression que il a fini, mais nous continuons à être aériens comme lui. Enfin, c'est comme s'il nous avait passé sa grâce. Elle est à nous maintenant. Voilà, c'est nous qui planons à sa place. Alors, il y a d'autres films où le mouvement ascensionnel a une autre fonction. Alors, ici, il faut citer Ophuls, parce que Max Ophuls, que je tiens pour un très, très grand cinéaste et un précurseur aussi, a toujours fait des plans très longs avec des travelling et des grues, des plans séquences. Alors, parmi les innombrables exemples possibles, je voudrais m'arrêter sur un sketch du plaisir, La Maison Tellier.
C'est l'histoire d'une maison. Pas une maison de rapport, du moins dans le sens où on l'entend généralement. C'était une maison, comment dirais-je, je ne voudrais pas vous choquer ni vous effrayer. Enfin, c'était une maison. Mais c'était une maison très bien tenue. On allait là chaque soir, vers 11h, comme au café, simplement. Ils s'y retrouvaient à 6 ou 8, toujours les mêmes, non pas des noceurs, mais des hommes honorables, des commerçants, des jeunes gens de la ville. Et l'on prenait sa chartreuse en lutinant quelque peu les filles, ou bien on causait sérieusement avec madame, que tout le monde respectait.
Trop tard.
Madame, issue d'une bonne famille de paysans, avait accepté cette profession absolument comme elle serait devenue modiste ou lingère. Le préjugé si violent et si vivace dans les villes n'existait pas dans la campagne normande. Le paysan disait « c'est un bon métier » et il envoyait son enfant tenir un harem de filles comme il l'eût envoyé diriger un pensionnat de demoiselles. Cette maison, du reste, était venue par héritage d'un oncle. Monsieur et madame, autrefois aubergistes, avaient immédiatement liquidé, jugeant la nouvelle affaire plus avantageuse. Et ils étaient arrivés un beau matin prendre la direction de l'entreprise qui périclitait en l'absence des patrons. C'étaient de braves gens qui se firent aimer tout de suite de leur personnel et des voisins. Monsieur mourut d'un coup de sang 2 ans plus tard. Sa nouvelle profession l'entretenant dans la mollesse et l'immobilité, il était devenu très gros et la santé l'avait étouffé.
Alors, ce premier plan, qui dure à peu près 2 minutes, commence sur la maison. Il y a un quai, un petit pont devant, c'est un port de Normandie, un petit port, 19e siècle. Et cette maison, on voit bien que c'est un décor et on sent bien, elle a un côté maison de poupée, si vous voulez. Je crois qu'il faut souligner ça, qui donne un aspect un peu artificiel, un peu féerique. Et puis, il y a des messieurs qui arrivent, on les a déjà présentés dans le texte, qui sont les notables de la ville, qui s'approchent de la maison, la caméra les suit, arrivent jusqu'à la porte de la maison. Et là, on a, après un grand plan général de la maison et du quartier, on arrive à un plan américain sur un monsieur qui frappe. Le ventail de la porte s'entrouvre et madame apparaît dans la lumière, là, et lui dit qu'il est trop tard. Voilà. Alors il repart, et à ce moment-là, la caméra reste sur l'intérieur de la maison, madame qui s'éloigne dans la lumière de la maison, et brusquement, la caméra monte. Alors c'est un mouvement rigoureusement d'ascenseur. Elle monte le long de la façade, elle découvre le chiffre 3, alors la fameuse lanterne dont on reparlera à d'autres reprises, puis elle arrive à la fenêtre de l'étage supérieur, pendant que madame monte l'escalier à l'intérieur de la maison. Madame arrive dans la pièce du haut que l'on aperçoit par cette fenêtre, et là, alors c'est un plan qu'on retrouve très souvent, on le retrouvera dans Madame 2 chez Ophuls l'année suivante. Ce type de plan va accompagner le personnage qui se déplace et que l'on aperçoit de l'extérieur de la maison en passant d'une fenêtre à l'autre. Cet espace nous j'allais dire, nous le comprenons, nous l'embrassons. C'est une appréhension tactile et physique et sensuelle de cette maison qui nous est extérieure et en même temps, je dirais, il n'y a plus de séparation entre le dehors et le dedans. Elle a beau être fermée, par ses fenêtres entrouvertes, on aperçoit ce qui se passe. Madame va aller finalement dans son bureau après avoir arrosé ses fleurs à une fenêtre et puis à une autre fenêtre elle va s'approcher d'une cage aux canaries, elle va leur donner à manger et finalement c'est une façon extrêmement élégante, rapide de nous présenter non pas seulement le décor, ça c'est abstrait, c'est faux, mais ce lieu. Alors, j'ai pas dit l'essentiel, c'est que justement toute l'histoire repose sur le fait que quelques jours après, un samedi soir, qui est un jour de grande fréquentation, la maison est fermée. Elle est doublement close. Il y a la maison close et la porte close. Et ces messieurs ne comprennent pas ce qui se passe. C'est un événement tout à fait extraordinaire. Et l'un d'eux revient et aperçoit un petit bout de papier affiché sur la porte, mais qui était tombé. Fermé pour cause de première communion.
Comme la flamèche qui jette le feu à travers un champ mûr. Les larmes de Rosa et de ses compagnes gagnèrent en un instant toute la foule. Hommes, femmes, vieillards, jeunes gars en blouse neuve, tous bientôt s'emplotèrent. Et sur leur tête semblait planer quelque chose de surhumain. Une âme épandue, le souffle prodigieux d'un être invisible et tout puissant.
Pour filmer une des scènes les plus spectaculaires d'intolérance, le banquet, Griffiths avait, je crois, en 1915, fabriqué à l'aide d'un treuil et d'un monte-charge posé sur des rails au milieu du plateau, un ancêtre de la grue, Jean Collet.
Oui, il a fabriqué une espèce de téléphérique. Enfin, c'était dans Intolérance, dans le chapitre babylonien, la séquence babylonienne, où, après avoir essayé de mettre la caméra sous une montgolfière, mais ça n'était pas assez stable, il a tendu un filin avec un plateau suspendu au filin, un treuil qui permettait donc de faire descendre la caméra, de la rapprocher et de la faire descendre au-dessus de la foule, lui faire survoler la foule. On pense que c'est en effet le premier dispositif qui annonce les grues telles qu'on les trouve plus tard à Hollywood et ailleurs. Alors ça s'est perfectionné depuis, maintenant on a des appareils qui permettent aussi de faire ces mouvements sans que le cadreur soit lui-même avec la caméra. La caméra est télécommandée, elle est automatique, le cadreur sur un écran vidéo la commande et contrôle exactement tous ces mouvements. Mais ça doit être beaucoup moins jouissif finalement. C'est comme de faire voler des modèles réduits au lieu d'être dans un planeur ou dans un avion. Je pense que on ne doit pas du tout l'éprouver de la même manière.
Alors, à l'unité, allons-y. Envoyez l'autobus.
coupé. On va la refaire en changeant de
pied. Oh, attention, moteur.
Annonce.
Formula 1, 2e, 1, 3e, 1, 5e, 7e.
Coupez.
Elle était bien celle-là.
Alors maintenant tout le monde se remet en position de départ. On en fait une en vitesse. Oh,
Formula 1, 4e.
Allons-y.
Truffaut voulait montrer le travail du cinéma comme une jouissance. Pour Truffaut, la création était certes pénible, bien sûr, mais aussi, c'est probablement ce qui le passionnait le plus dans la vie. Toute sa vie, c'était faire des films. Donc il a essayé de communiquer aux spectateurs ce bonheur d'affronter toutes les difficultés matérielles, tous les obstacles, et en même temps de montrer ça comme un western, il le dit lui-même. Alors tout le monde se souvient, au début de la nuit américaine, de ce plan sur une place de Paris, avec beaucoup d'animation, la caméra qui suit des personnages, et puis Jean-Pierre Léo qui va gifler quelqu'un. Et puis on s'aperçoit que c'est le tournage d'un film, on revoit cette même scène, mais du point de vue des techniciens et du point de vue donc du travail. Et on multiplie les prises qui pourraient être lassantes, mais devient une sorte de rythme. Là, il y a quelque chose aussi de chorégraphique dans le fait de recommencer pour chercher la perfection du rythme et du mouvement. Et tout cela s'accomplit par une troisième phase qui est le tournage à la grue de ce même spectacle. C'est-à-dire, alors là, on voit ce que c'est qu'une grue, cet appareil monté sur quatre roues avec une espèce de grand bras comme une balance et qui permet, quand on appuie à un bout de ce long bras de quelques mètres, de faire monter un plateau avec les techniciens, la caméra, le cadreur et ses assistants jusqu'à une dizaine de mètres. Et là, Truffaut traduit vraiment la jouissance du cinéma, qui est de pouvoir regarder les choses de haut, contempler de haut. Je crois qu'il faudrait opposer cette grâce, parce qu'il y a quelque chose de caressant aussi dans la grue, quelque chose qui est tactile, alors que le simple fait de dominer une scène par un plan fixe, de mettre la caméra à un point élevé sur un praticable ou une tour, donne une satisfaction visuelle, mais qui est très sèche, qui est très très froide. Je me souviens de l'anecdote d'un caméraman de la télévision roumaine. Il racontait qu'à l'époque de Ceausescu, on obligeait la télévision à filmer ces grands spectacles, comme il y en a dans tous les pays totalitaires, où les jeunes font des figures qui ne sont visibles que de très haut. Ce sont des figures en couleur, où l'être humain est perdu parmi des milliers d'autres figurants. Ça reprend d'ailleurs la comédie musicale, mais sans la grâce. Enfin, il y a une autre grâce, mais elle est quand même beaucoup plus imposante et terrifiante. Et alors le caméraman disait, on ne savait plus où monter pour arriver à cadrer, il y avait tellement de monde qu'il n'y avait pas de point assez haut pour cadrer tout ça. Non, dans la comédie musicale, il n'y a pas seulement le point élevé, il y a le mouvement de la caméra qui ne nous sépare pas des protagonistes.
Écriture cinématographique qui adopte le point de vue des anges. Écriture de l'envol maîtrisé, de la volupté. Les grues sont bien ces gigantesques oiseaux de ferraille, combattant le vide, maniant le monde, l'inventant, le bâtissant sur les rives de l'espace, des océans et de la mémoire. Ni de la terre, ni du ciel, seulement au-dessus des choses, au large. Tout est mouvement, transformation, métamorphose. Les géographies solennelles des limites humaines, dit Paul Éluard. Oui, envols et puissances. Retournons aux mots. Cela appartient au langage de l'amour. Et les correspondances ne s'arrêtent pas ici. S'envoyer en l'air, monter au septième ciel, lever un gars, une fille, décharger. La synesthésie de l'usage s'accroche à celle du plaisir. Que fait donc une grue sinon vendre de l'amour ? Appel à jouir, appel à bâtir, à créer. La grue érige des immeubles, des rêves et des sexes. Philippe Sourdon, Philippe Destrebecq, Hélène Pommier, Catherine Soulard, Nuit Magnétique, bonsoir.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 3 juillet 1991.